RFI et France 24 présentent
Mardi politique.
C'est l'heure de Mardi politique sur France 24 et RFI. Bonsoir Frédéric Rivière.
Bonsoir Rosine, bonsoir à tous.
Et ensemble nous recevons Jean-Louis Bourlange. Bonjour, bonsoir à vous.
Bonsoir Roselyne.
Ancien président de la Commission des affaires étrangères à l'Assemblée nationale. Merci d'avoir accepté cette invitation. Donc Donald Trump et Vladimir Poutine se sont parlé cet après-midi au téléphone pendant 2 heures. Selon la Maison Blanche, ça s'est bien passé. Est-ce que ce n'est pas là la démonstration de la faiblesse de l'Europe ?
Écoutez, il est absolument clair que l'apport militaire des États-Unis est absolument décisif pour la survie stratégique de l'Ukraine. À partir du moment où les choses sont posées dans ces termes, le président des États-Unis qui dit « de toute manière, je ne soutiens pas l'Ukraine si vous ne faites pas ce que je veux », il n'y a rien à dire. Il impose à Zelensky le fait d'accepter un deal qui sera, comme il dit, un deal avec Poutine. Mais de notre côté, je pense que nous ne sommes donc pas du tout partie prenante à cette négociation. Nous n'avons même pas à chercher à y être. C'est pas le problème. En revanche, il me semble que la résistance de l'Europe à l'idée d'une capitulation de l'Ukraine, la mobilisation des Européens face à ce qui est une crise de confiance extrêmement grave vis-à-vis des États-Unis, ça joue son rôle. Je pense que Trump ne peut pas se permettre indéfiniment de préconiser et d'obtenir une solution pour l'Ukraine qui soit totalement contraire à ce que nous voulons.
Peut craindre qu'il cède à Vladimir Poutine ? C'est en fait toute la question.
Écoutez, moi je crois que la situation est simple. Monsieur Trump a un seul objectif, la paix. Monsieur Poutine a un seul objectif, la victoire. Eh bien, ces deux objectifs sont tragiquement compatibles. Pour avoir la paix, il suffit de donner la victoire à Poutine. Et c'est bien dans ce jeu-là que s'est engagée cette partie depuis 3 semaines, dans lequel on voit jour après jour Trump rendre des armes sur le plan du discours, sur le plan même, rendre des armes au sens strict du terme, en coupant l'aide militaire, à Poutine. On a eu une inversion totale du rapport. Poutine a cessé d'être un criminel de guerre. On a cessé d'avoir les enquêtes sur les crimes de guerre qui ont été menés. On a estimé que c'était Poutine, enfin Trump a estimé que c'était Poutine, c'était Zelensky l'envahisseur, et que c'était Zelensky le dictateur et pas Poutine. Et on est engagé dans cette voie complètement démente d'inversion de la réalité, une espèce de torsion orwellienne de la vérité qui est terrifiant, qui prouve un effondrement moral des États-Unis extrêmement grave.
Jean-Louis Bourlange, deux questions en une, en fait. Si la paix négociée entre Vladimir Poutine et Donald Trump devait ressembler à une capitulation pour l'Ukraine, est-ce que du point de vue des Européens, vous pensez qu'il vaudrait mieux continuer à soutenir et à armer l'Ukraine pour qu'il puisse continuer à se battre militairement sur le terrain pour éviter donc une défaite trop dure. Et d'autre part, si cet accord intervenait entre Donald Trump et Vladimir Poutine, un plan de paix, mais que les Ukrainiens le refusaient, est-ce qu'il n'y aurait pas le risque que l'Ukraine apparaisse comme va-t-en-guerre, sans en avoir d'ailleurs forcément les moyens?
Non, mais cette histoire de va-t-en-guerre, ça commence à bien faire. C'est le discours que Trump accrédite depuis 3 semaines, au prix de mensonges continus. Il a voté les résolutions aux Nations Unies avec la Corée du Nord pour refusant de cautionner l'interprétation qui est la nôtre et la sienne, et celle des États-Unis depuis 3 ans, à savoir que c'était Poutine qui était l'envahisseur, évidemment, et Zelensky le résistant. On peut tordre la réalité dans tous les sens. Il reste que la question que vous posez, c'est celle de savoir si M. Zelensky a, avec notre accord, avec notre soutien, pardon, les moyens de résister en cas de rupture avec les États-Unis. C'est pas du tout évident.
Oui. Oui.
C'est pas du tout évident, mais nous n'avons qu'une chose à faire dans cette situation, c'est répondre aux attentes du président Zelensky. Il va nous demander un certain nombre de choses. J'imagine que les forces européennes, que ce soit les Allemands, les Français, les Anglais et les Polonais et les autres, aujourd'hui ont intensifié, j'en sais rien parce que tout ça est évidemment confidentiel, ont intensifié les flux d'armes et de munitions en direction de l'Ukraine. Nous devons au plus tôt mettre en place des moyens de transmission qui permettent de pallier la défaillance de la transmission américaine. Donc on a tout un ensemble de choses à faire. Quant au terme de je ne sais pas ce que seront les termes
d'un accord éventuel.
D'un accord éventuel. Est-ce que ça consistera à geler le terrain comme il est? Est-ce que ça consistera à reconnaître une souveraineté pleine et entière aux Russes sur une partie du territoire ukrainien, non seulement la Crimée, mais le Donbass? Est-ce que ça signifiera une mise en cause d'Odessa? Est-ce que ça signifiera une obligation, dans des conditions qui seront très hasardeuses politiquement et démocratiquement, de remettre en cause le mandat de M. Zelensky, puisque chacun sait que c'est un dictateur, alors que M. Poutine est un héros de la démocratie pluraliste? Est-ce que ça consistera à arrêter dès maintenant les sanctions contre les Russes? Est-ce que ça impliquera qu'on mette sur la table le sort des 20 000 ou 30 000 enfants ukrainiens? Est-ce que ça impliquera qu'on mette sur la table le sort des prisonniers? Tout ça, c'est on va voir. Mais il y a une contradiction profonde.
Oui.
C'est que Trump est parti avec l'idée de faire un cessez-le-feu pour 30 jours. Un cessez-le-feu, ça signifie qu'on gèle la situation. Attendez, je voudrais finir ma phrase.
Oui.
Et que Poutine, en revanche, s'inscrit dans une... en disant le cessez-le-feu implique qu'on règle tous les problèmes. Donc il y a une contradiction profonde. Ce n'est pas en 30 jours qu'on peut régler tous les problèmes. Donc là, je ne sais pas comment va se faire l'accord ou l'accrochage entre les deux positions américaines et russes.
Alors, Israël a lancé cette nuit des frappes contre Gaza qui ont fait 400 morts. Pour quelles raisons Benjamin Netanyahou a-t-il choisi de faire reparler les armes, selon vous ?
Écoutez, moi, je trouve absolument inadmissible ce que fait Israël, le gouvernement de M. Netanyahou actuellement. Je crois que c'est assez simple. M. Netanyahou profite de deux choses. D'abord, un accord à 100% avec le gouvernement américain, qui se fiche de tous les principes fondamentaux qui ont été ceux de la diplomatie américaine sur la zone et de la diplomatie européenne au cours des dernières années, et d'autre part du fait que l'opinion est entièrement absorbée par les affaires ukrainiennes. Or, il reste que je ne vois pas depuis le 7 octobre, je ne vois pas Israël ait mené une autre politique que celle qui consistait à détruire la poche de la bande de Gaza et détruire la Cisjordanie pour en transformer ça en une zone de contrôle par les Israéliens, ce qui veut dire plusieurs millions d'hommes et de femmes qui sont condamnées à n'avoir à quitter le terrain. Et là, actuellement, on rend simplement la vie impossible, le ravitaillement impossible, les soins impossibles. On détruit massivement un certain nombre de gens. C'est une politique qui est absolument inadmissible et contraire à toutes les traditions qui étaient celles des Israéliens Et évidemment, comme le rappelait l'autre jour M. Vedrine, à commencer par M. Rabin, qui avait quand même posé les problèmes de la présence d'Israël sur la zone en des termes compatibles avec les droits de l'homme.
Réaction de l'Arabie Saoudite, qui dénonce et condamne avec la plus grande fermeté la reprise, je cite, de l'agression des forces d'occupation israéliennes. Est-ce que ces frappes peuvent réveiller, peuvent avoir des conséquences régionales au Moyen-Orient ?
Je ne sais pas. Il est certain que M. Trump a besoin de l'Arabie Saoudite, qui s'en sert pour, notamment dans le règlement de l'affaire ukrainienne. C'est, pour l'instant, les pays arabes ont été quand même très légers vis-à-vis des intérêts palestiniens. S'ils ont signé le pacte d'Abraham, ce qui était une très bonne chose, d'arriver à une normalisation des relations avec Israël et d'assurer la sécurité d'Israël. Mais ça impliquait qu'on n'oublie pas quand même le volet palestinien. On a des gens, des millions de personnes en Cisjordanie et dans la bande de Gaza qui ont besoin d'être représentés dans une entité politique capable de les défendre, capable de leur assurer leur vie. Alors, on parle d'un État palestinien, c'est sans doute à la fois tardif et prématuré, mais on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Or, pour l'instant, les pays arabes que vous mentionnez sont obligés d'en convenir. Monsieur Sisi, le président Sisi d'Égypte, ne veut pas et ne peut pas accepter les 2 millions de personnes de la bande de Gaza. Le roi de Jordanie ne peut pas accepter les agriculteurs de Cisjordanie. Donc il faut trouver une solution, et ça, il le pense. Et comme le gouvernement israélien, qui est mu par l'extrême droite, ne veut pas en entendre parler, il n'y a pas de solution. Mmh. Donc la brutalité pure s'impose, et c'est une horreur.
Jean-Louis Borange, on va reparler un peu de politique française. Il y a quelques mois, vous reconnaissiez l'habileté de François Bayrou lorsqu'il a adopté le budget et qu'il a évité, bien sûr, la censure. Il avait promis un conclave entre le gouvernement et les partenaires sociaux sur les retraites, sans totem ni tabou, avait-il dit. Et pourtant, ce dimanche, le Premier ministre a affirmé qu'il n'était pas question d'un retour aux 62 ans. A-t-il hypothéqué déjà le débat et les discussions ?
Non, il y a deux choses. Moi, ce que je crois, c'est que François Bayrou a posé très clairement le problème au parti politique français, au président de la République et à l'opinion, quand il est devenu Premier ministre. Qu'est-ce que vous préférez ? Que nous levions le pavillon sur quantité de réformes qui sont d'ailleurs nécessaires, et quitte à provoquer une nouvelle crise avec des conséquences qui auraient été extrêmement dramatiques pour l'euro, pour la situation économique et financière de la France, ou est-ce que vous n'estimez pas, et lui le pensait, que ce qui était prioritaire en France, c'était la stabilité du gouvernement, c'était le fait que la France soit représentée, notamment à la lumière des grands enjeux géopolitiques qui sont les nôtres. C'est un choix difficile, parce que ça veut dire que ça voulait dire qu'il ménageait le Parti socialiste, et le Parti socialiste, on le sait, ne veut pas bouger. Donc c'était son choix, c'était un choix frustrant, difficile pour un homme qui voulait réformer le pays et qui était dans l'incapacité de le faire comme il le voulait, mais c'était le prix à payer pour une stabilité à laquelle les Français aspirent. Alors maintenant, il a fait cette déclaration.
C'est une erreur ?
On voit bien quand on écoute la capture d'image, on voit bien que c'était pas très adroit. Mais on est quand même dans un monde de dingue, où quelque chose d'aussi élémentaire que de dire, il n'a pas dit que le conclave n'avait pas le droit de dire ça, mais que de dire que l'hypothèse du retour à la retraite à 62 ans n'est pas une hypothèse complètement déraisonnable, c'est véritablement stupéfiant. On ne sait pas, moi je ne sais pas où en sont les partis politiques et où en sont les Français s'ils peuvent considérer aujourd'hui que le retour à 62 ans, le départ de l'âge à la retraite, est une option concrète. C'est véritablement... Alors on dit, il a dit c'est affreux, il a dit quelque chose d'horrible. Aujourd'hui, nous sommes dans un pays où celui qui dit quelque chose de vrai est considéré comme un criminel au regard non,
mais,
des...
Mais là, je ne vous parlais pas du fond, je vous parlais du timing, c'est tout. Mais
oui,
du,
ben, c'est, bon. Alors, voilà, le timing,
moment où il le
moi,
fait.
Je crois effectivement, non mais si vous voulez, je crois qu'il aurait, qu'il aurait mieux fait de ne pas, de ne pas le dire, mais le résultat, c'est que, de toute manière, si le, on voit bien que le conclave ne marche pas, que les syndicats ne sont pas du tout prêts à trouver des solutions qui sont raisonnables. Mais effectivement, il aurait mieux fait de leur laisser la charge de la preuve de ces contradictions et pas de l'assumer lui-même.
On va revenir à la diplomatie, Jean-Louis Bourlange. L'Algérie a refusé hier soir de reprendre sur son territoire les 62 ressortissants algériens que la France veut expulser. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a fait savoir que, qu'une riposte graduée allait être mise en place. Est-ce que vous êtes partisan, vous, d'une ligne de fermeté à l'égard de l'Algérie aujourd'hui ?
Non, mais je crois, moi, je suis partisan d'une relation rétablie
ça, tout le monde
avec l'Algérie.
Mais quels moyens ?
Mais je pense que c'est pas nous. Nous ne sommes pas responsables de la situation actuelle. Les Algériens ont très clairement, très volontairement, de façon très systématique, décidé, pour des raisons qui leur sont propres, qui sont sans doute en partie, mais en partie seulement, liées à la clarification de notre attitude sur le Sahara occidental vis-à-vis du Maroc, ils sont décidés à nous mettre dans un à refuser toute attitude coopérative. Je suis désolé, la liste, nous avons un traité qui prévoit le retour de ces OQTF, comme on dit, obligation de quitter le territoire, c'est les Algériens, sans même l'examiner, ont dit qu'ils n'avaient rien à en faire, ce sont eux qui rompent le dialogue, c'est pas nous.
Donc il faut y répondre fermement.
Mais on répond, il faut bien faire quelque chose. On va pas rester dans une situation où des engagements internationaux concrets, précis, clairs, sont bafoués. Je crois que alors comment y répondre, c'est très difficile. Moi, je crois que tout devait être fait pour et tout doit être fait pour éviter cela. Je pense d'ailleurs que c'est ce que nous avons fait. On s'est fait refuser des OQTF. On n'a pas tout de suite dit des choses. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a plusieurs éléments. Les accords de 68 sont pas forcément la seule riposte. Moi, je crois que, mais on ne peut pas accepter cette situation. Et d'ailleurs, ça nous pose un problème auquel il faut réfléchir. C'est que fait-on des OQTF ? Parce que ce sont des gens dangereux, pour la plupart. On l'a bien vu à travers l'horrible fait divers de Mulhouse. Oui. Ce sont des gens dangereux et il faut bien faire quelque chose. Alors maintenant...
On a terminé. Je suis navré, mais on a terminé. Vous savez, c'est un coup près, l'horloge, sur un plateau de télévision ou dans un studio de radio auquel on ne peut pas échapper.
Merci. Merci Jean-Louis Bourlange d'avoir... On aimerait vous...